L'artiste Fishback qui nous chantait Mortel.
Actualité culturelle, 4 jours de fête pour la maison Claude Léveillé. Ce mercredi sera inaugurée la maison de la culture Claude Léveillé, la petite nouvelle du réseau montréalais qui aura ses racines dans Villeray, a prévu 4 jours de célébration pour marquer le coup. Du 22 au 25 février, de nombreuses performances et animations artistiques auront lieu, notamment un hommage à Claude Léveillé, livré sous la forme d'un spectacle piano-voix conçu sur mesure pour célébrer la mémoire de ce monument incontestable de la chanson québécoise. Catherine Major assurera la direction artistique de cet hommage, qui comptera aussi sur les voix et les énergies de Daniel Lavoie, Pierre Flynn, Ingrid Saint-Pierre et Morand. La nouvelle maison de la culture Claude Léveillé rassemblera sous un même toit au rez-de-chaussée du 911 rue Jean Talon-Est, une salle de spectacle de qualité professionnelle de 260 places, une spacieuse salle d'exposition, une salle de médiation culturelle et un grand foyer pour l'accueil des citoyens. Les Jeunesses musicales du Canada ont procédé lundi à la dénomination officielle de leur maison de l'avenue du Mont-Royal-Est. Elle portera désormais le nom de Maison André Bourbeau des Jeunesses musicales Canada. Ce choix toponymique est un juste hommage envers l'ancien député de La Porte, 1981-2003, qui occupa plusieurs fonctions ministérielles entre 1985 et 1994. Depuis 1994, André Bourbeau a été très engagé auprès des Jeunesses musicales et de leur fondation. Il y a occupé de nombreuses fonctions, accompagnant le développement et la consolidation financière des Jeunesses musicales du Canada et fut, avec la basse Joseph Rouleau, à l'origine du Concours musical international de Montréal fondé en 2002, dont les JMC, les Jeunesses musicales du Canada, furent la cheville ouvrière. Amos d'Aragon, la série animée confirmée. Élaboré il y a une dizaine d'années, le projet de série d'animation inspiré des aventures du personnage Amos d'Aragon pourra enfin voir le jour. La firme Iceworks Animation, à laquelle est associé l'auteur Brian Perrault, ou Brian Perrault, produira une première série d'émissions à Magog où elle est installée. Ayant piloté le projet, le producteur créatif Sylvain Viau confie avoir complété ses démarches en vue de dénicher du financement lundi matin. Il a dû travailler avec acharnement pour mener le bateau à bon port et est arrivé à ses fins. La structure financière est confirmée depuis ce matin, on parlait de lundi. C'est grâce au soutien de la région de Magog que ce projet se concrétisera, a déclaré M. Viau lors d'une conférence de presse tenue en après-midi à Magog. Iceworks a prévu produire une première série de 13 épisodes qui constitueront une suite aux histoires racontées dans les romans de Brian Perrault, mettant en vedette Amos d'Aragon. On en fera 13 pour débuter, mais le but, c'est d'en faire plus que ça, précise le producteur. D'ailleurs, je commence dès aujourd'hui à travailler pour créer une deuxième saison. À propos de cette nouvelle, présent à la conférence de presse, Brian Perrault n'a pas caché son excitation. « C'est un magnifique moment pour moi aujourd'hui », a-t-il déclaré. « J'ai toujours dit qu'on était capable de gérer nos affaires nous-mêmes en création au Québec. » Jean-Philippe Vautier, qui co-animait Les Gémeaux depuis 2 ans avec Éric Salvaille, reviendra à la barre du gala de la télévision le 16 septembre prochain. On fait suffisamment confiance à Vautier pour lui confier l'animation en solo, lui qui pilote déjà Les Dieux de la danse et Le Beau Dimanche sur Ici Radio-Canada Télé et La soirée est encore jeune sur Ici Première. Le duo Salvaille-Vautier avait opté pour un humour plutôt acide ces 2 dernières années. On devine que Vautier ne se gênera pas pour écorcher son ancien collègue dans son numéro d'ouverture. En période d'inscription jusqu'au 28 février, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision au Québec a ajouté 4 nouvelles catégories de métiers en fiction et en jeunesse pour les médias numériques. La SODEC a annoncé hier le financement de 10 projets de documentaires, dont Les Roses, un film de Félix Rose, fils de Paul et neveu de Jacques Rose. Les deux hommes étaient membres de la cellule Chénier du Front de libération du Québec, FLQ, qui a enlevé le ministre du Travail Pierre Laporte en octobre 1970. Une décision qu'ils n'ont jamais remise en cause malgré la loi sur les mesures de guerre et la mort tragique de leur otage, lit-on dans le communiqué de la SODEC. 50 ans plus tard, Félix Rose revient sur les événements dans une quête personnelle, explorant au passage l'histoire et l'héritage de sa famille. Plusieurs autres projets seront à suivre, dont une seconde réflexion de Fernand Dansereau sur l'érotisme et le vieillage et misogynie, 2.0 sur la cyberviolence contre les femmes de Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Le très beau Corteo, imaginé par Daniele Fenzi-Pasca, nous reviendra dans une version rafraîchie. Voici que le spectacle festif nimbé de mystère ancré entre ciel et terre réapparaîtra à Montréal et à Québec, mais cette fois en aréna, en décembre prochain. Depuis sa création en 2005, Corteo en a mis plein la vue à 8 millions de paires d'yeux dans 64 villes réparties un peu partout sur le globe. Dans une ambiance de fête foraine, un clown y évoque ses propres funérailles sous le regard attentionné d'une volée d'anges bienveillants. Daniele Fenzi-Pasca continue à veiller lui-même sur son univers, qui promet de transporter le spectateur dans une atmosphère théâtrale jamais vue en aréna au Cirque du Soleil. Non seulement Black Panther fracasse des records au box-office, mais le film de Marvel s'attire aussi les éloges de personnalités publiques partout dans le monde, dont l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama. Le film de Ryan Coogler, qui met en scène des personnages principaux noirs, a réalisé de vendredi à hier des recettes de 235 millions de dollars au box-office nord-américain, un record pour le long week-end du jour des présidents. Si on considère les trois premiers jours, il vient au cinquième rang des départs les plus lucratifs de l'histoire. Michelle Obama a par ailleurs remercié le réalisateur Ryan Coogler sur Twitter. « Grâce à toi, des jeunes vont enfin voir des super-héros comme eux au grand écran », lui a-t-elle écrit. La bande originale du film, qui a été produite par le rappeur Kendrick Lamar, a aussi pris la tête du palmarès des ventes d'albums aux États-Unis. Et des internautes ont annoncé la fausse mort de Sylvester Stallone. Premièrement, ils ont annoncé sa mort, mais entre parenthèses, on peut bien lire « fausse » sur les réseaux sociaux. Un canular que le frère de l'acteur, Frank Stallone, a rapidement condamné. « Les rumeurs voulant que mon frère soit mort sont fausses. Quel genre d'esprit malade et cruel pense à publier des choses comme ça? » Le principal intéressé a réagi quelques heures plus tard. « S'il vous plaît, ignorez ces stupidités. » « Je suis en vie, heureux et en santé. Je continue de donner des coups de poing », a écrit l'interprète de Rocky Balboa sur ses comptes Instagram et Twitter. À l'automne 2016, l'acteur avait fait l'objet de la même rumeur, soit qu'il était mort au terme d'un combat contre le cancer de la prostate. Non, Sylvester Stallone est bien vivant.
Rendre utile et passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelet inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. De remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh,
à force de
remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
San Severino nous chantait « Mal aux mains ».
Je vais lire l'éditorial d'Alexandre Sirois intitulé « Vive le mépris des adolescents pour l'hypocrisie! » Point d'exclamation. Si le président Donald Trump veut venir me dire en face que c'était une terrible tragédie, que ça n'aurait pas dû se produire et qu'on ne peut rien y faire, il me fera plaisir de lui demander combien il a reçu d'argent de la National Rifle Association. Pendant une dizaine de minutes samedi, Emma Gonzalez a dénoncé l'hypocrisie et la passivité des politiciens américains sur la question des armes à feu. Son discours, d'une sincérité désarmante, est rapidement devenu viral, tout comme les réactions de plusieurs autres élèves de l'école, où 17 personnes ont été tuées la semaine dernière. Ils en ont assez d'entendre les politiciens et les autres ténors du Parti républicain et de la toute-puissante National Rifle Association dire que ces tueries n'ont rien à voir avec les armes à feu. Et ils réclament du changement. On les comprend. Je me suis cachée dans une armoire pendant 2 heures. Vous n'étiez pas là. Vous ne savez pas comment on se sent. C'est une question d'armes à feu, a écrit sur Twitter une autre survivante indignée, Carly Novel. Le tweet a été relayé et aimé par plusieurs centaines de milliers de personnes. Une journaliste du New Yorker a bien résumé le phénomène auquel on est en train d'assister. Une manifestation du mépris des adolescents américains pour l'hypocrisie, a-t-elle écrit. C'est vrai. C'est d'ailleurs une manifestation aussi saisissante que rafraîchissante et, dans une certaine mesure, encourageante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces élèves ne sont pas déconnectés. Ils sont plutôt en phase avec la réalité américaine. Ils ne prêchent pas dans le désert. Plusieurs sondages ont démontré ces dernières années qu'une majorité d'Américains souhaitent un meilleur contrôle des armes à feu. C'est ce que réclamaient 64 % des personnes interrogées l'automne dernier dans la foulée de la fusillade à Las Vegas, selon un sondage effectué pour le magazine Politico. Et selon une autre étude, pas moins de 8 Américains sur 10, 79 % sont en faveur d'une interdiction des fusils d'assaut, comme le tristement célèbre AR-15. Par ailleurs, le nombre de ménages où on retrouve des armes à feu est en baisse depuis les années 90. Oui, vous avez bien lu. De 1994 à 2016, il est passé de 53 % à 36 % selon un sondage du réseau CBS. Ce n'est peut-être pas irréversible, mais c'est tout de même un net déclin. Ce sont les politiciens au pouvoir à Washington qui sont déconnectés de l'opinion publique américaine sur la question des armes à feu. Leur apathie pitoyable et leur hypocrisie s'expliquent facilement. Premièrement, le Parti républicain contrôle la Maison-Blanche et les deux chambres du Congrès américain. Deuxièmement, la National Rifle Association demeure, pour le Parti républicain, une source de financement fiable. Elle a dépensé plus de 30 millions de dollars US en 2016 uniquement pour soutenir la candidature de Donald Trump. À l'inverse, elle peut traîner dans la boue les républicains jugés trop timides dans le dossier des armes à feu. Troisièmement, les électeurs qui s'opposent au contrôle des armes à feu se mobilisent avec plus d'enthousiasme à chaque scrutin que ceux qui en voudraient davantage. En somme, à court terme, le courage lucide des élèves floridiens risque fort de ne rien changer. Mais c'est néanmoins un pas dans la bonne direction. Leurs doléances ne sont pas sans écho et ils n'ont pas fini de protester. Une importante manifestation est prévue le 24 mars. Par ailleurs, les mentalités changent et bientôt, ils seront eux-mêmes en âge de voter. Il y en aura peut-être un jour donc du progrès. Mais en attendant, ce n'est pas faire preuve de fatalisme que de prédire d'autres tueries, d'autres enterrements et d'autres deuils aux États-Unis. C'est, hélas, faire preuve de réalisme. Pyeongchang 2018, skieur alpin le plus décoré de l'histoire canadienne, Éric Gay s'est joint à l'équipe de débat pour faire part de ses observations au fil des 2 semaines olympiques. Et son texte s'intitule « Et si ?» Point de suspension. C'est un parcours qui te convenait vraiment bien. Tu aurais bien fait, c'est certain. C'est ton genre de piste. Je n'en veux évidemment pas à mes amis ni à tous ceux qui m'ont abordé depuis mercredi dernier, jour de la finale de la descente masculine olympique. Ils veulent m'encourager, je comprends parfaitement. Mais entendre ce genre de message, ça m'a fait mal, un peu. Et ça m'a aussi fait douter, je dois l'avouer. Non pas en mes capacités, parce que je suis persuadée que si j'avais été en santé, j'aurais pu faire un très bon temps en descente. Je sais que mes amis ont raison. La piste de Pyeongchang convenait très bien à ma façon de skier. C'est un tracé particulier où le vent est bien présent. Il fallait donc être agressif tout en étant relax. Les skieurs d'expérience étaient avantagés. Des skieurs plus âgés comme Axel Lund Svindal, 35 ans, qui a fait pratiquement un sans faute et remporté la médaille d'or. C'est en le regardant descendre et gagner que le doute a surgi chez moi. Les questions ont commencé à se bousculer dans ma tête. Et si j'avais combattu ma blessure? Et si j'avais reçu une injection dans le dos? Et si j'avais décidé d'aller au jeu quand même? Et si j'avais pris le départ? Et si... Je croyais avoir fait le deuil des Jeux olympiques depuis un bout de temps déjà, depuis le début de l'année 2018 en fait. Je m'étais trompée, semble-t-il. J'ai passé les derniers jours à regarder les épreuves de ski tant chez les hommes que chez les femmes. Et c'est lors des épreuves de vitesse, en voyant Svindal et les autres descendre à vive allure, que j'ai remis en doute ma décision de ne pas aller à Pyeongchang. Et pourtant, au fond de moi, je sais que c'était mieux de rester à la maison. C'était la décision logique à prendre. Actuellement, mon corps n'est pas en mesure de suivre mes aspirations et j'aurais vécu des frustrations en voulant compétitionner avec les autres skieurs du circuit. D'ailleurs, ce matin, j'ai mal au dos et j'ai de la difficulté à me pencher. Alors voilà, le doute est un état d'esprit puissant, mais mon mal de dos l'est encore plus. Pour ceux qui cherchaient l'histoire la plus impressionnante des Jeux, elle a eu lieu samedi dernier, vendredi soir au Québec. Et elle met en scène une spécialiste de la planche à neige dans une épreuve de ski. Si j'avais prédit la victoire de Svindal dans la descente masculine, de même que les bonnes performances de Jitil Jangrud, de Beat Ferns et de Michaela Schifrin, il est impossible d'imaginer qu'Esther Ledecka allait remporter le Super G féminin. Vous la connaissez, vous, avant de la voir descendre? Vous la connaissiez, vous, avant de la voir descendre la piste? Pour ma part, pas vraiment. Je savais qu'elle était double championne du monde en planche à neige, ce qui est déjà très impressionnant. Et voilà maintenant qu'il faudra aussi dire qu'elle est championne olympique au Super-G féminin. Elle a devancé les grandes vedettes de l'épreuve, Anna Witt, Lara Gut et même Lindsay Vonn, qui se reprendra sans doute lors de la descente, n'ont pu faire mieux qu'elle. Ce n'est pas la première fois que je vois un skieur ou une skieuse moins bien classée connaître une grande journée. Mais ce que la Tchèque a réussi à faire est tout simplement magistral. Elle partait 26e et a terminé première. Improbable. Elle-même a été surprise de l'emporter. À l'arrivée au bas de la piste, elle croyait à une erreur de chrono. Je n'avais jamais vu une telle performance. Et voilà qu'il lui reste le slalom en planche à neige, une épreuve où elle est l'une des favorites. Esther Ledecka pourrait donc repartir avec l'or dans deux disciplines olympiques différentes. En voilà une qui vient de se faire un nom. Je n'ai jamais été victime de menaces, ni dans la vraie vie, ni sur les médias sociaux, jamais. Je n'ai même jamais reçu aussi peu de commentaires négatifs sur ce que je dis ou sur ce que je mets en ligne. Alors quand j'ai su que la patineuse de vitesse Kim Boutin avait été menacée de mort sur les réseaux sociaux, je n'en revenais pas. Et pourquoi au juste? Tout simplement parce qu'un arbitre a disqualifié la patineuse sud-coréenne lors de la finale du 500 mètres pour avoir accroché la Québécoise. Dans cette histoire, il faut garder en tête que Kim n'a fait que son travail, soit patiner le plus vite possible. Une décision arbitraire hors de son contrôle lui vaut des messages de haine et des menaces de mort. C'est inacceptable. Personne ne mérite de recevoir des menaces, qu'elles soient virtuelles ou bien réelles. Propos recueillis par Philippe Beauchemin. Les propos d'Éric Gay. Et pour terminer, le milliardaire américain Bill Gates estime qu'il devrait, ainsi que tous les richissimes contribuables aux États-Unis, payer davantage d'impôts en qualifiant la réforme fiscale du président Donald Trump de « régressive ». « Je devrais payer davantage d'impôts », a affirmé M. Gates sur CNN. « J'ai payé davantage d'impôts, plus de 10 milliards de dollars que quiconque, mais le gouvernement devrait exiger des personnes dans ma position de payer des impôts bien supérieurs. » deuxième homme le plus riche du monde derrière le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, le cofondateur de Microsoft a une fortune estimée à plus de 90 milliards de dollars, dont il a orienté une grande partie vers des causes humanitaires et à la recherche médicale notamment. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis. Je vous rappelle que j'anime l'hyperactualité dans quelques secondes si vous nous écoutez en direct. Merci Maurice Bolduc. À la prochaine. Demain, Jean-Sébastien Laliberté sera de retour.